des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Les peurs existentielles de l'homme, peur de la mort, de la souffrance, angoisse concernant le sens de la vie, scandale du mal pour reprendre l'expression de Paul Ricoeur, bref, toutes ces peurs constitutives de notre être ont été circonscrites dans l'espace du sacré depuis les mythes les plus anciens. Comment ? Pourquoi ? Jean-Pierre Vernant revient sur la signification théologique du célèbre passage de la mythologie concernant Prométhée et la création de l'humanité et il rappelle le sens des règles imposées par Zeus à l'homme. Écoutons-le.
Ce qui caractérise la vie humaine, c'est que placé sous le signe Prométhée, Épiméthée, prévoyance, irréflexion, toute espèce de bien pour l'homme a son revers et son mal. Il n'y a pas de bonheur sans malheur. Il n'y a pas d'espoir, l'espoir reste au fond, sans désespérance. Il n'y a pas de mâle sans femelle. Et l'ambiguïté apparaît ainsi comme la condition fondamentale d'un homme qui ne peut trouver la paix dans le cadre de cette théologie qu'en acceptant son destin. Le sacrifice signifie « sache que tu n'es pas un dieu ».
La peur et le sacré, première partie, c'est évidemment en compagnie du docteur Dominique Demichel. Dominique, bonjour.
Bonjour Simon.
Alors Dominique, nous réalisons cette émission à distance, car à l'heure où nous enregistrons, eh bien nous sommes une fois de plus confinés pour la deuxième fois. Alors j'espère que vous êtes bien installés, que tout va bien de votre côté, évidemment on ne se voit pas.
Voilà, on ne se voit pas. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de masque. On doit être à quelques kilomètres de distance, puisque vous, vous êtes dans Chartres et moi, je suis pas très loin de Chartres, enfin, juste à côté, dans la banlieue de Chartres, un petit peu devant mon ordinateur, avec une liaison qui a l'air de bien fonctionner. Je trouve que vous êtes d'ailleurs assez doué pour faire ce type de choses. Espérons que tout marche bien jusqu'à la fin de l'enregistrement.
Exactement. Alors, revenons à Jean-Pierre Vernant. Dites donc, ce n'est pas très joyeux le destin de l'humanité, et ce, depuis la nuit des temps, depuis les toutes premières mythologies.
Oui, alors moi j'ai un peu envie de revenir parce que le texte de Vernant, comme d'habitude, il est dense. Je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs aient tout compris. Je redis des tout petits mots pour comprendre. D'abord, il parle de Prométhée et Épiméthée. On ne va pas reprendre tout le mythe, mais juste dire quand même que Prométhée et Épiméthée, ce sont deux frères. En gros, Prométhée, c'est celui qui est, comme dit Jean-Pierre Vernant, qui est le prévoyant, celui qui pense à l'avance. Et puis Épiméthée, c'est celui qui pense toujours en retard. Il a toujours un train de retard. Et pourquoi on parle de Pandora ici ? Pour deux raisons. D'une part, parce que Épiméthée va épouser Pandora. Et deuxièmement, parce que après que les dieux se soient fâchés un petit peu contre les humains, qui n'étaient pas à l'époque séparés en deux, donc qui étaient une sorte d'humain mais sans un homme et une femme, il va y avoir une sorte de conflit, et que dans ce conflit entre les dieux et les humains va apparaître la première sexuation. Et la première femme qui apparaît dans le mythe grec, hein, dans le mythe des chrétiens, vous savez, c'est Ève, et dans le mythe grec, c'est Pandora, elle est apportée à l'humanité. Et elle est apportée aussi dans le cadre de l'irruption de la sexuation. Et aussi, on voit là les parallèles avec le mythe juif ou judéo-chrétien, elle va apporter, entre guillemets, les malheurs. Alors, c'est une très vieille histoire que les femmes apportent le malheur. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, parce que dans le mythe juif, en tout cas de la Genèse, ma position, je ne suis pas le seul évidemment à le penser, est au contraire que c'est celle qui apporte réellement la différenciation sexuée. Pour Pandore, en tout cas, elle arrive, elle apporte tout énormément de bien au monde, mais elle apporte aussi dans une certaine mesure la peur, justement, dans cette approche que souligne Jean-Pierre Vernant de la dualité, c'est-à-dire de l'opposition entre le bien et le mal, le jour, la nuit, etc.
Elle apporte cette peur à travers la boîte de Pandore, cette fameuse boîte de Pandore qu'elle va ouvrir, cette boîte qui contenait tout ce qui peut être néfaste dans l'univers, finalement. Et c'est aussi sa soif de curiosité, de connaissance, quelque part, qui va engendrer tous ces chaos et qui va installer la peur au cœur de l'être humain.
Comme le souligne Jean-Pierre Vernant, en effet, très très tôt, l'humain a dû être confronté à la peur, hein, parce que de temps en temps, il avait peur des événements extérieurs de la nature, du froid, des orages, de la foudre. Voilà, il avait peur des animaux, peut-être il avait peur de ses semblables. Et à partir de là, il a créé au fond des mythes et des rites. On a plusieurs fois eu l'occasion d'en parler, sans peut-être consacrer à ce mythe, c'est-à-dire une sorte de récit qui a prétention à donner du sens à l'histoire, ou les rites, c'est-à-dire toutes ces petites choses qui sont faites pour structurer notre quotidien et assurer la continuité de nos existences au fil de notre de nos vies, au fil des générations. On ne sait pas très très bien lequel a eu lieu le premier. Mais j'ai un peu oublié votre question.
Oui, je voulais dire aussi que cette peur et ces calamités viennent de la curiosité de Pandore qui ouvre cette boîte. Et évidemment, on ne peut que faire le parallèle avec la Genèse, où la peur aussi apparaît après que les yeux d'Adam et Ève se soient dessillés, pour reprendre la belle formule de Chouraki, en d'autres termes que leur esprit s'ouvre à la connaissance. Donc voilà. La connaissance est aussi, en tout cas dans ces mythes, le principe même de la peur, presque.
Oui, tout à fait. Et alors, on peut le comprendre de manière extrêmement simple. Ish et Isha, hein, qui sont les deux noms, un des deux noms de Adam et Ève, il y en a plusieurs, Zakor et Nkeva aussi, ils étaient au fond, dans une certaine mesure, deux enfants immatures, deux enfants insouciants, on pourrait dire dans le ventre de Dieu, hein, de ce Dieu Elohim, là, qui était à la fois d'abord et avant tout une mère, puisqu'ils avaient tout ce qu'il fallait. Hein. Ils avaient, voilà, la nature était généreuse, comme pour les enfants. Quand les enfants sont petits, ils n'ont pas à savoir et à se préoccuper de se dire qui remplit le frigo, qui paye les impôts et qui vérifie qu'il y a de l'essence dans la voiture pour aller à l'école ou faire les courses. Donc, ils étaient irresponsables. Et puis, à un certain moment, Ève choisit de prendre le fruit et les voilà avec des yeux ouverts. Ils étaient indifférenciés, ils étaient superposables et voilà qu'ils voient la différence. Et probablement un des fondements importants de la peur, c'est l'altérité.
Alors, docteur Dominique Desmichel, il y a un paradoxe finalement. C'est la connaissance de l'inconnaissable qui provoque la peur et non pas la connaissance de quelque chose qu'on pourrait circonscrire, on pourrait faire le tour. L'inconnaissable, c'est-à-dire, comme vous le dites fort justement, l'autre, mais ça peut être aussi évidemment la mort, oui. L'inconnu.
Je ne sais pas si c'est tout à fait dans le même registre. Probablement, en tout cas, la mort est cet irreprésentable complet dont on ne sait rien du tout. on sait que celui qu'on aime est mort, par exemple, c'est tout. Mais ce que ça veut dire être mort, on ne sait pas. D'ailleurs, pour être mort, il faut être, et quand on est mort, on n'est pas sûr d'être, hein. Ou en tout cas, ce mot n'a pas de contenu transcendant ou n'a pas de contenu ontologique évident. Par contre, apprendre, oui, je suis d'accord avec vous pour dire que cet inconnaissable, c'est probablement l'autre aussi. Mais en même temps, toute la relation affective, toute la relation amoureuse, que ce soit une relation affective entre des parents et des enfants, entre un homme et une femme, deux hommes ou deux femmes, dans le cadre d'une amitié ou d'un amour, c'est quand même d'abord et avant tout assumer sa différence, mettre en scène cette différenciation, peut-être transgresser au fond l'interdit parental de la connaissance, mais d'un interdit parental qui ouvre en même temps à cette possibilité d'une connaissance. Donc dans cette différenciation, d'abord parent-enfant, puis homme-femme, chacun est invité à devenir adulte. D'où la question de la nudité. Tant qu'ils étaient enfants, leur nudité ne leur posait pas de problème. Maintenant, oui, vous avez raison, il y a cette altérité-là et elle leur fait peur.
Alors après ce grand détour par la mythologie et par la Genèse, eh bien, revenons peut-être, j'ai envie de dire, un peu les pieds sur terre et pensons peut-être aux premiers hommes qui habitaient notre monde, à leur solitude, parce que évidemment la population mondiale était dérisoire et ne devait se rencontrer qu'épisodiquement, enfin en tout cas les clans entre eux, et toutes les peurs évidemment qui devaient peupler leur journée comme leur nuit.
Oui, je pense, c'est ce qu'on disait au tout début d'émission là, hein. Je pense que la peur, dans le sens ce sentiment intérieur face à un danger extérieur concret et réel, elle devait les habiter. Et probablement, ils ont mis en place des systèmes de sécurité en choisissant des grottes pour se protéger, en tout cas des ouvertures abritées où peut-être ils pouvaient mettre de la lumière, du feu. Ils ont choisi en même temps probablement des grottes beaucoup plus profondes qui n'étaient pas des lieux d'habitation, mais au contraire des lieux sacrés. Et donc, en même temps, ils ont appris à se défendre, à fabriquer des outils, des armes pour se défendre et dans une certaine mesure contenir leur peur. Mais en même temps, ils ont créé des rites, ils ont invoqué des dieux, ils ont fait des dessins, ils ont mis de l'ocre d'argile, de l'ocre rouge dans leur bouche et ils l'ont craché sur leurs mains en faisant ces pochoirs qu'on connaît bien dans toutes les grottes. Ils ont fabriqué des statues de divinité qui sont pratiquement toutes des déesses féminines avec ce qu'on appelle les Vénus théatopiges, ça veut dire qu'ils ont des fesses pleines de graisse. Théato, c'est grec, c'est graisse dans le mot grec, ou calipiges avec des grosses fesses, hein, et qui sont au fond des représentations de la maternité. On voit ça aussi dans la grotte Chauvet. Alors dans la grotte Chauvet, il y a une stalactite qui est nichée à un mètre du sol et qui représente aussi une divinité féminine en représentant le sexe féminin. Et puis j'ai oublié le nom, mais très récemment, là, au mois de septembre, donc le mois dernier ou au mois d'octobre, je ne sais plus, on a aussi retrouvé cette représentation. Et puis dans Lascaux, hein, donc Chauvet, c'est 32-33 000 avant Jésus-Christ, Lascaux, c'est 15-17 000 avant Jésus-Christ, il y a aussi au fond d'un puits, hein, l'homme au puits, cet homme avec une tête d'oiseau et qui est allongé sur le sol, il a un sexe qui est en érection et qui est en direction d'une sorte de rhinocéros. Alors il y a eu énormément d'hypothèses qui ont été faites là-dessus. Il y a un très gros livre que je n'ai pas lu de Jean-Louis Le Guélec, je crois, sur toutes les hypothèses. Toujours est-il que là, en effet, on tente de mettre en situation quelque chose autour de ces peuples.
Alors évidemment, on ne peut pas se mettre à la place et dans la tête de nos ancêtres. Cependant, On pense que la conscience de la mort, la peur des peurs, j'ai envie de dire, serait apparue il y a plus de 200 000 ans. Et ça fait remonter cette humanité à très très loin quand même.
Oui, il y avait dans, je crois que c'est dans la revue La Recherche, enfin maintenant c'est la même revue que Science et Avenir, je crois, il me semble, à moins que ça soit dans Science et Vie, je ne sais plus, il y avait un article sur la perception que certains animaux, comme les baleines, les éléphants, peut-être même les corbeaux, dont on sait que malgré leur petit cerveau, ils ont probablement une certaine forme d'intelligence, comment ces animaux pouvaient avoir une perception en quelque sorte de la mort de leur très proche. Les hommes, probablement, ils ont pris conscience de leur vie et de leur existence à partir du moment où ils ont enterré leur mort. Hein, voilà, c'est peut-être le premier rite qui est apparu sur Terre.
Enfin,
et
en tout cas, voilà. pour nous, hommes modernes, c'est une preuve suffisante, on va dire, peut-être qu'ils l'avaient avant, mais effectivement, pour nous, c'est une preuve suffisante de cette conscience de la mort.
Oui, je crois, ouais. Je crois. C'est-à-dire, on ne peut pas considérer que c'est comme, c'est comme le poireau qui est abîmé qu'on va abandonner, voilà. Ou c'est pas comme la carcasse du mammouth dont on a récupéré la peau, la viande ou les tendons pour faire des arcs et qu'on peut abandonner comme ça. Là, il y a un lien affectif et il y a une interrogation. Mais celui que j'ai aimé, où va-t-il? Que devient-il?
Alors, il faut évidemment attendre le début du troisième millénaire avec l'écriture pour qu'on ait une véritable trace écrite et qu'on puisse un petit peu mieux rentrer dans la tête de nos ancêtres et surtout dans la création des religions et puis les liens entre les hommes et les dieux.
Oui, je pense que là, vous faites allusion à cette période en Mésopotamie, là, entre les deux fleuves de l'époque sumérienne, avec l'épopée de Gilgamesh. Alors, c'est ce texte qui est un très beau texte, qui a été écrit dans deux langues, enfin bon, peu importe, il raconte en fait l'histoire d'une amitié entre Gilgamesh et Enkidu. Gilgamesh, c'était un roi mésopotamien, qui semble-t-il d'ailleurs a existé pour de vrai, et il avait un ami, Enkidu. Alors au début, ils s'enguirlandent un peu comme dans les films américains, ils se battent, voilà. Puis comme ils sont tous les deux très très forts, aucun n'arrive à gagner. Et donc, ils vont devenir les meilleurs amis. Et puis, Enkidu va mourir, Gilgamesh va garder le corps de son ami Enkidu, et un jour, si ma mémoire est bonne, il voit un petit ver qui sort par ses narines. Et alors, de cette transformation et évidemment de cette putréfaction du corps de son ami, il est absolument bouleversé et il va partir à la recherche de l'immortalité. Alors, il va la chercher par monts et par veaux, il va rencontrer un personnage qui s'appelle Utanapishti, qui est une sorte de Noé, de Sumérien, hein, qui vit très 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 longtemps, et il lui dit, mais toi qui vis très très vieux, qui es très très vieux, qu'est-ce que tu peux m'apporter pour que je devienne à mon tour immortel? Et en fait, Utanapishti lui dit, oui, je vis beaucoup plus vieux que les autres, peut-être 300 ans ou 400 ans, évidemment, on est dans le mythe, mais je ne peux rien te dire, nous sommes tous mortels.
Docteur Dominique Desmichel, moi ce qui me frappe évidemment quand on lit tous ces mythes et tous ces récits anciens qui sont les premières traces écrites de religion, la révélation des dieux et les réponses qui sont offertes par les religions sur le sens de la vie, eh bien c'est des réponses qui ne font pas plaisir à entendre. La Bible parle de labeur, d'enfantement dans la souffrance. Nous l'avons vu, les mythologies grecques parlent aussi de l'homme de fer avec qui est mu par sa passion et sa violence et puis qui finira par périr le jour où Zeus en aura plus qu'assez. On cherche des réponses pour contrer cette peur, mais en même temps, on ne se voit là absolument pas la face. Et les réponses de la religion, c'est-à-dire les réponses qui sont révélées par les dieux, eh bien, elles font pas plaisir à entendre.
Alors, vous venez d'employer deux fois le mot de révélation. Dans certaines religions, par exemple dans le christianisme, par exemple dans l'islam, le Dieu, en effet, se révèle, c'est-à-dire il vient parler par l'intermédiaire d'un homme. Dans d'autres mythologies, il n'y a pas cette dimension de révélation, c'est-à-dire de parole descendante, hein. Il y a une sorte d'expérience, on pourrait dire une expérience mystique qui est faite, mais sans que ça soit une révélation. Mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Oui, ce que vous dites est juste dans le sens où la grande énigme, vous disiez en introduction à propos de l'interrogation de Ricoeur sur le mal, mais on pourrait se dire aussi. Mais voilà pourquoi il y a la vie et la mort. Je pense qu'il n'y a pas de réponse à la question. La seule réponse à la question, il me semble, c'est de dire que la mort, le fait que nous allons mourir, c'est ce qui donne du prix à notre existence. Et c'est ce qui donne de la valeur à nos choix, hein. Voilà, tant bien que mal aujourd'hui, un peu à distance, on enregistre cette émission et on le fait aujourd'hui parce que nous nous savons mortels. Et en plus, nous sommes actuellement confinés, c'est-à-dire nous sommes à quelques kilomètres les uns des autres et heureusement qu'on a Internet qui nous relie. Pourquoi? Parce que il y a des morts en France en raison d'une épidémie. Et on voit d'ailleurs bien dans cette épidémie que il y a une dimension en partie rationnelle et en partie irrationnelle. La partie rationnelle, c'est que les malades peuvent avoir des formes graves et que les lits de réanimation ne sont pas extensibles à l'infini, même si par rapport à la première, au premier confinement, j'en discutais ce matin avec un confrère réanimateur à l'hôpital, la mortalité a énormément baissé, passant de 1% à probablement moins de 0,4%. On sait beaucoup mieux faire et surtout en faisant moins lourd qu'avant. Mais on voit bien que là, cette peur de la souffrance, cette peur de la mort des autres, cette peur de l'isolement, cette peur de la rupture des liens sociaux, cette peur de la perte du travail, elle est toujours là, omniprésente, et que, in fine, et on le voit bien ici avec la COVID-19, il y a quelque chose autour de la mort potentielle à l'horizon.
Et une mort, évidemment, et une peur de la mort, évidemment, qui est là depuis, eh bien depuis la nuit des temps. Docteur Dominique Desmichel, nous allons nous arrêter ici pour cette première émission sur la peur et le sacré. Et je vous donne rendez-vous, eh bien, la semaine prochaine.
Merci Simon, au revoir, à la semaine prochaine.
Au revoir.